Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1637. Le discours de la méthode est un texte philosophique majeur de René Descartes, conçu comme une présentation accessible de la manière de bien conduire la raison et de chercher la vérité dans les sciences. Rédigé en français. Alors que le latin dominait encore les écrits savants, il associe récits de formation intellectuelle, exposés méthodiques et aperçus de recherches métaphysiques et scientifiques. Descartes ne propose pas seulement des thèses à apprendre, il décrit une discipline de pensée destinée à réduire les erreurs, à ordonner les problèmes et à établir des connaissances certaines. Le livre suit 6 parties qui vont de la critique de son éducation et des opinions reçues à la formulation des règles de méthode, puis au doute, au cogito, à une morale pratique et à des considérations sur la nature. Sa portée historique tient autant à son ambition de fonder le savoir sur la raison individuelle que à sort pour relier philosophie et recherche scientifique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le bon sens exige une méthode pour devenir connaissance. Le point de départ du discours est une affirmation à la fois égalitaire et exigeante, la faculté de bien juger est en principe partagée par les êtres humains. Les désaccords ne viennent donc pas nécessairement d'une inégalité naturelle des esprits, mais de la diversité des chemins suivis et du mauvais usage de la raison. Descartes refuse ainsi de faire de la vérité le privilège des autorités, des traditions scolaires ou des érudits. Toutefois, il ne confond jamais autonomie intellectuelle et opinion spontanée. Une pensée livrée à ses habitudes, à la précipitation ou aux préjugés demeure exposée à l'erreur. La méthode devient alors un ensemble de contraintes volontaires qui transforment la capacité de raisonner en recherche réglée. Cette position explique la forme personnelle de l'ouvrage. Le récit de son parcours ne vaut pas comme modèle biographique à imiter en tout point, mais comme invitation à examiner par soi même les croyances héritées. Descartes ne promet pas une accumulation universelle de savoir immédiat. Il propose plutôt une manière de progresser avec ordre, en proportionnant ses jugements aux raisons disponibles. Le texte inaugure de cette façon une conception moderne du sujet connaissant chacun peut contribuer à la vérité, à condition de soumettre son esprit à des règles explicites et contrôlables. Deuxièmement, les 4 règles organisent une enquête rationnelle. Le noyau pratique du livre réside dans 4 règles qui décrivent une procédure de résolution plutôt qu'un catalogue de doctrines. La première impose de ne recevoir comme vrai que ce qui se présente avec évidence de façon claire et distincte. Elle vise directement les jugements hâtifs et les convictions fondées sur la seule coutume. La deuxième règle demande de diviser chaque difficulté en autant de parties utiles que possible. Un problème obscur devient plus maniable lorsque ces éléments sont distingués. La troisième commande, de conduire la pensée du plus simple au plus complexe, en établissant des enchaînements ordonnés au lieu de traiter simultanément tous les aspects d'un sujet. Enfin, la quatrième exige des dénombrements complets et des revues générales afin de limiter les omissions. Ces préceptes reflètent une inspiration mathématique, mais leur intérêt dépasse le calcul. Ils indiquent comment rendre un raisonnement vérifiable, identifier les prémices, isoler les difficultés, construire une progression et contrôler le résultat. Leur force tient à leur complémentarité. L'analyse sans ordre risque de disperser le problème, tandis que la synthèse sans examen détaillé risque de masquer une erreur initiale. La méthode cartésienne ne garantit donc pas mécaniquement une vérité factuelle. Elle définit les conditions intellectuelles les plus rigoureuses pour chercher cette vérité et rendre compte du chemin suivi. Troisièmement, le doute méthodique conduit à la certitude du cogito. Descartes emploie le doute non comme une fin sceptique, mais comme un instrument de sélection. Il décide de suspendre son assentiment envers tout ce qui peut être mis en question, notamment les informations sensibles, les croyances reçues et les raisonnements dont une erreur demeure concevable. Cette radicalité permet de tester la solidité des fondements du savoir, une proposition qui résiste au doute pourra servir de point de départ. La découverte décisive est que l'acte même de douter ou de penser ne peut être séparé de l'existence du sujet qui pense. La formule « je pense donc, je suis » exprime cette première certitude. Elle ne résulte pas d'une observation extérieure ni d'une déduction longue. Elle est saisie dans l'exercice présent de la pensée. Sa fonction est fondatrice, mais toutes les représentations du monde étaient trompeuses, il resterait certain qu'il existe une pensée engagée dans ce doute. Il faut cependant éviter une lecture simpliste. Le cogito ne prouve pas immédiatement tout ce que le sujet croit savoir sur son corps, sur autrui ou sur le monde matériel. Il établit d'abord la certitude de l'existence du sujet pensant. Le discours montre ainsi comment une mise en cause méthodique des opinions peut produire un commencement positif, au lieu de conduire seulement à l'incertitude. Quatrièmement, la morale provisoire maintient l'action pendant la recherche. La suspension du jugement théorique pose une difficulté concrète, il est impossible de suspendre toutes ses décisions dans la vie quotidienne. Descartes répond par une morale provisoire, conçu comme un ensemble de règles pratiques valables pendant que la recherche de fondements certains se poursuit. La première maxime recommande de suivre les lois et les coutumes du pays, avec modération plutôt que de bouleverser sa conduite au gré des incertitudes philosophiques. La deuxième invite à agir avec fermeté une fois une décision raisonnable prise. Son image du voyageur perdu souligne le danger de changer continuellement de direction faute de certitude parfaite. Une résolution stable vaut mieux que l'immobilité ou l'hésitation sans fin. La troisième maxime propose de travailler à modifier ses désirs plutôt que de vouloir soumettre à sa volonté un ordre extérieur qui ne dépend pas de soi. Cette morale ne constitue pas une éthique définitive fondée sur des démonstrations achevées. Son caractère provisoire est essentiel car elle sépare la nécessité d'agir de la prétention à posséder déjà le bien suprême. Elle révèle aussi une limite féconde du rationalisme cartésien, la rigueur critique ne dispense pas de vivre, de choisir et d'assumer les conséquences de ses choix. Le livre articule donc discipline intellectuelle et continuité de l'action, sans confondre certitude scientifique et prudence pratique. En dernier lieu, un manifeste pour une science unifiée et indépendante des autorités. Le discours présente la méthode comme le principe d'une ambition plus large, réorganiser les sciences sur des bases rationnelles. Publié initialement avec des essais consacrés à la dioptrique, aux météores et à la géométrie, il ne doit pas être lu comme un traité abstrait isolé de toute pratique savante. Ces travaux avaient pour fonction de montrer comment une méthode pouvait être appliquée à des objets scientifiques. Descartes défend une nature intelligible, susceptible d'examen ordonné, plutôt qu'un domaine dont les explications devraient reposer principalement sur la tradition ou sur les qualités occultes. Ces développements de physique et de physiologie appartiennent naturellement au débat de son époque, et certaines de leurs conclusions ne correspondent plus aux connaissances actuelles. Leur intérêt durable réside moins dans leur validité empirique que dans le progrès méthodologique, expliquer les phénomènes par des principes cohérents, soumettre les hypothèses à l'examen de la raison et relier les domaines du savoir. Le choix du français participe à cette orientation. En s'adressant au public cultivé au-delà du cercle latin des universités, Descartes affirme que la recherche rationnelle peut être discutée publiquement. L'ouvrage marque ainsi une rupture avec le poids exclusif de la scolastique, tout en restant une œuvre du XVIIe siècle. Il associe une nouvelle autorité de la raison à une exigence de démonstration, ce qui explique son rôle central dans l'histoire de la philosophie moderne. En conclusion, le discours de la méthode convient particulièrement aux lecteurs qui souhaitent comprendre une origine majeure de la philosophie moderne, sans commencer par un traité technique de grande ampleur. Il intéressera les étudiants en philosophie, les lecteurs de culture scientifique et toute personne désireuse d'examiner les conditions d'un raisonnement rigoureux. Son bénéfice principal ne réside pas dans la fourniture de réponses prêtes à l'emploi, il apprend à distinguer une conviction héritée d'une idée examinée, à décomposer un problème et à contrôler les étapes d'une conclusion. La morale provisoire ajoute une leçon utile : l'incertitude intellectuelle ne justifie ni l'inertie ni l'arbitraire dans l'action. Face aux ouvrages contemporains de méthode ou de vulgarisation scientifique, le texte se distingue par son statut double. Il est à la fois une intervention historique, un récit de formation, une proposition philosophique et la déclaration d'un programme pour les sciences. Ces formulations sont souvent plus brèves et plus radicales que les manuels modernes, mais elles obligent le lecteur à interroger les fondements mêmes de ces critères de vérité. Certaines parties scientifiques doivent être replacées dans leur contexte historique, et le chemin qui mène du cogito aux autres certitudes appelle une lecture attentive. Pourtant, la force singulière du livre demeure, il fait de la méthode non une simple technique, mais une exigence de responsabilité dans l'usage de la raison. Si vous souhaitez soutenir René Descartes, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.